Camarade gamer, c'est Creepers.
Camarade mélomane, c'est Rhône.
Et bienvenue dans cette nouvelle saison de la Beatsbox.
Eh bien, vous savez quoi, ça nous fait mais super plaisir de vous retrouver. On était en train de piaffer, Creepers et moi. C'est-à-dire, bon, c'est bon, on redémarre, on va y aller, on va se refaire une saison de la Beatsbox. On a écouté plein de sons pour cette année, on a des tas de sujets, on est complètement au taquet. Je crois qu'on peut le dire, on est au taquet.
On peut le dire.
Et on s'est dit, quoi de mieux pour commencer cette nouvelle saison que de vous parler des jeux pour lesquels on a eu des coups de cœur. Des jeux, quand on les a lancés, ça a matché, ça nous a plu, ça nous a carrément accroché. Alors on s'est appliqué à vous concocter une superbe playlist sur des titres qui sont peut-être pas les plus connus, peut-être pas les plus évidents. Il y en a qu'on a un peu gardé sous le coude pour d'autres émissions qu'on va préparer. Mais on est absolument sûr qu'on va parler de jeux qui vont vous parler aussi. Et on s'est appliqué bien sûr à ce que toutes les musiques passées résonnent bien dans votre tête à la fin de l'émission.
Allez, on démarre sur les chapeaux de roue, on enfile les casques et on monte sur des gros quads. D'écouter une production Disney Interactive. Et oui, c'était pure, c'était bien pure. Franchement, pure, c'était super.
Ah, c'est clair.
C'était développé par Black Rock Studio, c'était des anciens de Climax qui faisaient plein de jeux de moto à l'époque. Alors moi, c'est des trucs qui me parlent pas du tout généralement. Et époque Xbox 360, c'était ma console de l'époque, c'était celle sur laquelle je jouais le plus, et il y avait plein de photos, plein de vidéos qui commençaient à tourner sur un jeu de quad qui était quand même méchamment beau, et on n'y croyait pas vraiment. J'ai dit, tiens, un jeu de quad, bon bah voilà, ça a l'air très arcade, ouais, qu'est-ce que c'est, j'ai pas très envie de jouer à ça. Et au final, à l'époque, on était dans un magasin de jeux vidéo, et on l'a lancé. On se dit, mais en fait, c'est vraiment beau, quoi. Et en plus, c'est hyper rapide. Et en plus, c'est super fun. Moi, je me suis éclaté, franchement, sur Pure. C'était une petite bombe. Une petite bombe de fun. Alors, on pouvait pas jouer à plusieurs sur la même console. Alors, tout le monde disait, ouais, c'est nul. Mais moi, je m'en fous, parce qu'à l'époque, je jouais au Xbox Live. Et donc, c'était vraiment pas du tout un défaut pour moi, même si je peux comprendre que certains voulaient jouer à deux. Mais moi, je faisais un max de courses directement en ligne. On pouvait faire des figures, il y avait du boost. Ça allait vraiment à 100 à l'heure. Il y avait plein d'arbres qui passaient dans tous les sens sur les côtés. On pouvait se vautrer complètement. Et surtout, le mode multi, bah, il était vraiment super chouette. De mémoire, le serveur marchait très très bien. Il y avait pas de lag. On pouvait faire le kéké comme ça sur les pistes de boue. En plus, on pouvait customiser les quads. Ben franchement, c'était super cool et c'était un peu la même époque où j'ai retrouvé le feeling de Flatout Ultimate Carnage.
Flatout.
Alors Flatout, c'est vraiment une grosse frustration parce que alors en plus, alors je triche un petit peu parce que généralement sur la Beatsbox on met pas de musique qui sont sous licence, enfin avec des vrais groupes, etc. Enfin, je sais que t'as déjà triché une fois toi dans une émission.
Ouais, peut-être une fois.
Voilà, donc je me suis dit, allez, puisque lui il a triché, moi je vais tricher aussi, parce que je pensais vraiment que c'était des créations pour le jeu, mais en fait pas du tout, parce qu'on a écouté la musique de The Chemist, la musique s'appelle Stompbox, et en plus du coup j'ai découvert en faisant des recherches pour l'émission qu'ils avaient utilisé cette musique là dans d'autres jeux de course comme Need for Speed ou Blur, des bons jeux de toute façon, mais c'est vrai que Flatout Ultimate Carnage c'est beaucoup de grosses guitares etc, donc j'ai jamais pu en passer dans l'émission, et là je me suis dit allez banco c'est parti, cette fois je diffuse de la musique pour pure, parce que j'avais surkiffé ce jeu à l'époque. C'est vraiment un gros coup de cœur, c'est pas forcément le meilleur jeu du monde, mais j'ai pas retrouvé, moi, je sais pas si t'as déjà eu d'autres sensations comme ça sur un jeu d'arcade, moto, etc.
C'est pas le meilleur jeu du monde, mais c'est quand même une petite perle pour toutes les raisons que t'as évoquées. C'est joli, c'est speed, et surtout, c'est fun, quoi.
Bah ouais, c'est carrément fun.
Voilà, moi qui suis pas non plus un énorme fan des jeux de moto, bah celui-là, je l'ai bien poncé, et c'est même un des rares jeux où j'ai pris la peine d'apprendre à faire les figures.
Bah oui, je trouvais ça assez cool. Bien les figures en plus, ouais, c'est clair. Donc un jeu très bien réalisé, fun, hyper rapide, je crois, mais peut-être que j'ai des bêtises à vérifier, qu'il est rétro-compatible sur Xbox One, donc je l'ai encore, donc je l'ai pas encore relancé, mais là, rien que d'en parler, bah j'ai envie de rejouer à Pure. Allez, on reste dans l'arcade et dans la course avec le premier jeu de Rhône. Et oui, vous avez peut-être reconnu la musique de Revolt, sortie en 1999. Alors moi, c'est sur Dreamcast que j'y ai joué. Et c'est vraiment l'illustration que parfois, bah, un coup de cœur, ça se commande pas. Ah ouais.
Voilà. Sur Dreamcast, il y avait quand même des gros jeux de partout. C'était une machine à hit, hein. Ça tombait de partout. Et moi, je me suis pris Revolt, qui est quand même un jeu de voiture télécommandée. C'était pas le plus beau jeu du monde, mais pourtant, bah moi j'ai terriblement accroché. C'est un jeu qui est ultra dynamique. Comme c'est des voitures télécommandées, elles sont très très légères, donc à chaque choc elles s'envolent. On court sur des trottoirs entre les roues des bagnoles. Moi j'ai trouvé ça super bien rendu et encore une fois, point commun avec Pure, surtout très fun. Il y avait une belle ambiance dans le jeu et en petit bonus, la musique était vraiment excellente. Hyper péchu, c'est un jeu qui respire la bonne humeur, Revolt, et rien que pour ça, je trouve que ça valait le coup de le mentionner. Alors je sais pas qui a fait la musique de Revolt, j'ai pourtant cherché, alors peut-être que j'ai mal cherché, je sais pas.
Sûrement.
Enfin, voilà, si vous savez, n'hésitez pas à dire oui t'es nul, t'as mal cherché, c'est un tel qui a fait la musique. Mais en tout cas ce qu'on peut dire c'est qu'on est vraiment de la musique péchue qu'on pourrait mettre directement en soirée hein, pour s'éclater sur le dance floor. D'ailleurs pendant que je parle je suis en train de bouger un petit peu là.
Classe.
Bah ouais bah carrément parce que je trouve que ça vaut le coup. Voilà. Alors on va rester sur notre série jeux de course et j'enchaîne avec mon deuxième jeu qui nous amène un petit peu plus loin dans le passé sur Atari ST et Amiga. On vient de s'écouter le principal thème de Lotus Esprit Turbo sorti en 90 sur Atari ST et Amiga avant d'être adapté un petit peu plus tard sur différents supports. Hein. Je crois qu'il a atterri sur Mega Drive notamment, mais probablement sur plein de supports. Hein. Alors moi j'en ai surtout un souvenir sur Atari ST parce que quand j'ai acheté mon Atari ST, je l'ai acheté à un gars qui faisait partie d'un groupe de crackers. Donc ceux qui avaient ces machines s'en rappellent, c'était les mecs qui faisaient des démos, qui craquaient des jeux, etc. Ce qui fait que j'ai acheté l'ordinateur avec deux boîtes blindées de disquettes avec des tas de jeux.
Oh là là, c'est pas bien.
Bah c'est pas bien, mais il y a prescription, parce que c'est 1990, hein, donc ça va. Donc autant dire que j'essayais tout, et alors quand j'ai mis la disquette de Lotus Esprit Turbo, je suis carrément resté bloqué sur cette musique, déjà. C'est une musique qui tabasse, qui donne énormément envie de jouer, et coup de chance, le jeu en plus est super bon. Alors on n'est pas vraiment dans les standards actuels, hein, c'est-à-dire qu'il y avait dans les... une bagnole, hein,
voilà,
une Lotus Esprit Turbo, hein, d'où le titre d'ailleurs. Il devait y avoir deux ou trois circuits à tout péter, mais par contre il y avait une très belle animation, un très bon gameplay, et surtout il y avait du relief, finalement bien avant à Outrun 2, où on a pu retrouver également cet élément. Alors, la musique, hein, peut-être que vous avez reconnu un peu cette caractéristique, parce que, comme on le disait, il est fort, ce con.
On reconnaît le style.
C'est un son qui vient de Barry Leitch, qui est quand même le patron de l'époque Atari ST Amiga, et dont vous avez déjà passé un morceau pour une autre course de bagnole, c'était Top Gear, c'était Creepers qui vous avait fait écouter ça. Donc, autant dire que les bagnoles, ça l'inspire, le petit père Leitch. Bon alors, quand on est en voiture, parfois on a des accidents, il y a des sorties de route, et où on finit ? Eh, bah à l'hôpital.
1997, alors c'est une époque de ma jeunesse où mes parents ont acheté quelque chose d'incroyable que je n'avais pas l'habitude de voir. Un PC.
Waouh, c'est quoi ça?
Un PC, alors à l'époque, moi qui étais sur, c'était ouais Super Nintendo, etc. Là, il y a un PC qui débarque à la maison. Enfin, je l'ai eu un tout petit peu avant, mais je découvre plein de types de jeux que je ne connaissais pas. Alors déjà, le FPS, hein, le FPS sur console, bon, on sait pas trop ce que c'est. Le point and click, avec des jeux comme Day of the Tentacle, et la gestion. Alors, la gestion, pour un mec bourrin comme moi, c'est compliqué de me donner envie. Et bah, Theme Hospital a réussi à me donner envie à un jeu de gestion, et j'ai directement accroché à ce titre de Bullfrog, notamment par son humour, parce que, clairement, hein, dans Theme Hospital, on n'est pas sur un registre sérieux au niveau des maladies, puisqu'on a des mecs qui sont atteints d'hyperlangue, on a le syndrome du King, où le mec se prend pour Elvis, donc on le voit danser, il arrive avec la banane et tout. Il y avait aussi des maladies où le mec arrivait avec une tête complètement gonflée comme un ballon, donc du coup, il y avait le docteur qui arrivait, lui piquait la tête avec une aiguille, puis il le regonflait avec un système pour les... une pompe de vélo, je ne sais même pas comment ça s'appelle, tellement je fais de vélo, une pompe à vélo. Donc c'est vraiment un jeu qui est hyper fun et qui mise vraiment sur l'humour pour nous faire jouer. Mais en plus de ça, ce qui était très sympa avec Theme Hospital, c'est qu'il y avait quand même une bonne couche en dessous de gestion pour gérer l'hôpital au niveau des conflits avec les médecins. Il fallait donc employer les médecins, les aides-soignants, les infirmières, les personnes pour balayer, etc. Donc c'est vraiment un jeu que j'ai adoré. Après, alors, je vais peut-être encore une fois dire une bêtise, je sais plus si Theme Hospital est sorti avant Theme Park. Je crois que c'est d'abord Theme Park qui est sorti, mais on était vraiment sur une gamme de jeux qui m'avait vraiment accroché, qui m'avait permis de rentrer dans ce type de jeu-là, et rien que pour ça, j'ai envie de dire merci Bullfrog, et en plus, la bande originale était vraiment chouette, et alors j'ai plein de noms, alors je sais pas s'ils ont tous bossé sur le jeu, donc il y a Jérémy Longley, il y a Adrian Moore, Russell Shaw et Andy Wood, qui auraient bossé sur cette bande originale plutôt sympathique, et qui jouent vraiment justement sur l'ambiance un petit peu détendue, et qui permet de passer vraiment un long moment dans le jeu sans se lasser de l'ambiance sonore. Il y avait aussi des appels micro des gens qui disaient des trucs un petit peu chelous, c'était vraiment très très sympa. Voilà, moi j'adore Theme Hospital et c'est encore un jeu que j'adore, et bizarrement il n'y a jamais eu de suite. Il y a eu plein d'adaptations sur tablette, etc., mais il n'y a jamais eu de Theme Hospital 2, et je trouve ça un petit peu dommage.
Bah, ça a dû être réadapté tellement au fil du temps que moi j'ai eu l'impression que Theme Hospital il a une durée de vie de
ouais, que ça a toujours existé en fait, t'as toujours l'impression que Theme Hospital a toujours été là, en fait il est toujours là tout au fond de notre cœur. Alors, transition de bon goût de l'ami Rhône, puisque on est à l'hôpital, bah forcément il y a des choses malheureuses qui s'y passent, et on va enchaîner avec la sélection film de moi-même. sortez les mouchoirs, les amis. Nous venons d'écouter une musique de A Monster Call, ou quelques minutes après minuit. Ils sont rares les coups de cœur cinoche ces derniers temps, mais début 2017, j'ai été cueilli par ce film de Juan Antonio Bayona. J'ai pleuré, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, au point qu'à un moment, je pense que si j'avais été seul devant ce film, je me serais mis en boule, et je me serais véritablement effondré. Alors, ça peut ne pas donner envie à certaines personnes, parce que je peux comprendre que ce type d'histoire peut ne pas forcément attirer, mais c'est un film qui est absolument bouleversant, qui est d'une maîtrise incroyable. Bayona est un très jeune réalisateur encore, pourtant il a déjà fait quelques films derrière lui, notamment L'Orphelinat, qui est un très bon film, il a aussi fait Impossible, que je n'ai pas encore vu. Il paraît que c'est très réussi, mais j'ai pas encore regardé ce film-là. Mais donc je suis allé très rapidement au cinéma, parce que je savais que ça ne resterait pas longtemps, et vous n'avez été que 75 000 en France. Allez voir ce film, et c'est un véritable scandale. Donc je vais quand même vous pitcher un petit peu l'histoire. Donc ça raconte la triste histoire de Connor, un jeune garçon qui vit seul avec sa mère, qui est atteint d'un cancer et qui évolue malheureusement très très vite. Et pour affronter ses peurs, il va être confronté à un monstre géant en forme d'arbre, et qui va lui conter trois histoires avant que lui ne soit obligé d'avouer ses propres peurs à ce personnage. Donc c'est un film forcément qui traite de choses assez compliquées, notamment si on a vécu vraiment des choses un petit peu similaires, c'est pas évident, mais c'est un film qui est d'une grande justesse, qui est absolument bien écrit, qui a des acteurs épatants et qui ne rentre jamais dans le pathos absolu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surabondance de violon, de choses comme ça. C'est tellement bien amené, tellement bien fait que on est cueilli complètement par cette histoire. Et même si on pleure toutes les larmes de notre corps tout le long du film, on ressort quand même avec de l'espoir, et ça c'est beau. Allez, je vous laisse tranquillement vous moucher, et on retourne dans le jeu vidéo.
Alors à un moment donné, je n'avais plus rien à découvrir sur ma Dreamcast et la PS2 n'arrivait pas vraiment à me convaincre. Alors en attendant l'arrivée des GameCube et Xbox, je me suis dit tiens, et si mon PC que j'utilise pour aller glander sur internet, je m'en servais pour jouer à des jeux vidéo.
Quelle drôle d'idée.
Ouais, j'avais pas pour habitude de trop de jouer sur PC. Alors j'ai regardé ce qui avait bonne réputation et je suis allé m'acheter d'occasion Baldur's Gate 2. Dont je viens de passer un morceau qui vient de l'extension Shadows of Amn, pour être précis. Et alors là, je crois que j'ai perdu un bon paquet d'heures de sommeil. C'est bien simple, avant ça je jouais aux jeux de rôle japonais, et d'un seul coup je découvre un monde où quand on dit jeu de rôle, ça veut dire que c'est ouvert, qu'il y a des possibilités qui ont l'air infinies, c'est d'une richesse incroyable, il y a plein de trucs à lire partout. Enfin, je me suis complètement perdu dans ce jeu, d'autant plus que j'étais un joueur de Donjons et Dragons, dont ça reprenait les règles. Donc totalement aux anges avec ce Baldur's Gate 2, qui, enfin même aujourd'hui, ça reste un grand jeu. C'est fou, la dimension que peut avoir ce jeu. Et sans surprise, la musique qui l'accompagne est totalement épique. Ça pue l'heroic fantasy, en particulier celle que j'ai sélectionnée. Quand vous l'avez entendue, forcément, ça a résonné entre vos oreilles si vous avez joué à ce jeu, puisque c'était la musique qu'on avait au démarrage du jeu, et notamment quand on créait ses personnages. Et la création des personnages dans Baldur's Gate, c'était très important, parce que si on avait des statistiques de merde, eh ben on les gardait tant qu'on était vivant, quoi. C'était pour toujours. Donc on relançait le jeu jusqu'à choper des super statistiques. Ce qui fait que la musique, je crois que tous ceux qui ont joué à Baldur's Gate 2, on l'a entendu, mais des heures.
Ça valait mieux qu'elle soit bien.
Ouais, jusqu'à ce qu'on ait le bon personnage, quoi. Alors, elle est l'œuvre de Michael Honing, qui est un compositeur de musique de film. Bon, je vais pas lui faire l'affront de citer des films, parce que c'est pas vraiment des chefs-d'œuvre. Et au final, il est surtout connu pour son travail sur Baldur's Gate, qui lui, par contre, est absolument impeccable. On va rester dans l'héroïque, mais sur une autre époque et sur une autre machine.
Oh, la surprise, la Mega Drive, quoi.
Et cette fois-ci, nous voici sur Mega Drive en 1992 quand sort un shoot'em up qui s'appelle Steel Empire. Alors des shoot'em up sur Mega Drive, il y en a plein. Mais alors vraiment plein. Et moi j'adorais ce genre de jeu. Et il y en a aussi énormément qui ont bien meilleure réputation que ce Steel Empire. Et pourtant, je dois dire que j'ai vraiment scotché sur ce jeu, surtout grâce à son ambiance qui elle est unique. On contrôle pas des vaisseaux ou quoi que ce soit, on a soit un biplan, soit un dirigeable, et tout le jeu se passe dans un monde de steampunk. Donc le premier adversaire, c'est un train, on va aller dans l'espace à un moment donné, mais même dans l'espace, on est beaucoup dans de la rétro-SF, ce qui était quand même furieusement original en 1992. Et les graphismes sont avec un léger ton pastel qui est du plus bel effet. Donc certes, c'est pas le meilleur jeu en termes techniques, mais au niveau de son ambiance, il m'avait fait une très très grosse impression. Ce qui fait que c'est un titre, à vrai dire, que j'avais découvert en arcade quand j'avais vu sur Mega Drive. J'étais absolument aux anges. Cette particularité, la singularité de Steel Empire, c'est ce qui fait que même aujourd'hui, quand on lance le jeu, finalement, ça a pas vraiment d'équivalent. Ce qui fait qu'il garde encore son intérêt aujourd'hui. Pour accompagner le jeu au niveau du son, les musiques s'adaptent au thème choisi avec une sorte de passé moderne. Il y a une espèce de mélange dans les compositions jusqu'à dans l'autre musique que j'ai failli passer, que je vais peut-être mettre derrière, tiens, maintenant que je suis en train d'en parler. Sur le dernier niveau qui se passe dans l'espace, qui est très très étrange, donc c'est à la fois très moderne tout en ayant une sonorité qui fait un petit peu vieux. Moi je trouve que ça marche très bien. C'est Noriyuki Iwadare accompagné de Yoshiaki Kubotera et de Isao Mizoguchi. Je sais pas pourquoi je me lance dans ce
film. Ah oui, c'est bien tenté, c'est bien osé.
C'est super risqué. qui était aux manettes et ils ont fait un vrai bon boulot avec une vraie bonne musique 16 bits comme on les aime. Pour la suite, on va rester sur 16 bits, sur un jeu qui parle de mecs avec des cheveux jaunes en l'air.
Quoi ? Alors, 1993, la fièvre des BZ brûlait dans mon corps, et encore maintenant, vous le voyez, parce que je me lance dans des trucs un petit peu improbables, je pense l'avoir bien fait, mais
ça avait l'air pas mal.
En tout cas, c'est ce qu'on entend quand on lance Dragon Ball Z 2, la légende Saiyan, et donc 1993, comme je l'ai dit, DBZ, c'était la folie. Et c'est même encore la folie maintenant avec Dragon Ball Super. C'est une saga qui continue. Et en plus, on.
Avant Dragon Ball sans plomb.
Avant, bientôt. Parce que, et puis avec énergie renouvelable. Et donc, ouais, Dragon Ball Z, Club Dorothée, les mercredis, j'étais devant ma télévision pour regarder le Club Dorothée qui a fêté ses 30 ans. Faut quand même le signaler, hein. C'était une émission qui nous avait permis quand même de découvrir de plein d'animés japonais, entre deux tartes à la crème un peu débiles, hein, faut aussi le dire, hein, c'était un peu ça le Club Dorothée. Mais en tout cas voilà, les aventures de Sangoku, moi ça m'avait marqué, et forcément quand j'arrive chez mon cousin et que je débarque et que je trouve un jeu Dragon Ball Z, moi j'étais pas au courant, je dis mais ça défonce. Et là on commence à jouer, et je me dis mais ça défonce Alors avec le recul, ça n'arrive pas à la suite d'un Street Fighter 2. Il y a pas d'enchaînement fluide, il y a quand même quelques petits soucis, c'est pas méga beau non plus, mais avec mes yeux de gamin, c'était fou. C'était fou parce qu'on pouvait se transformer, parce qu'il y avait un mode histoire avec une VF complètement dégueulasse. Ils avaient même carrément changé les noms des personnages, c'était complètement nul. Mais à l'époque, ça se trouve c'est les noms japonais, je suis pas au courant, enfin bref. J'étais un peu naïf. Mais le jeu, voilà, moi je jouais, on pouvait se transformer, il y avait des super coups, on pouvait s'envoler, faire des combos, etc. Puis je jouais avec Gohan et Sangoku, donc moi j'étais complètement content. Et on vient d'écouter la très sympathique musique du thème de Trunks, qui a été composée par Kenji Yamamoto. Tu vois, moi je prends dans le simple, Ron, tu vois, au niveau des noms,
bien, Yamamoto,
je reste dans le nom de base facile à dire. Et alors il a travaillé sur quasiment tous les jeux estampillés des BZ. Il a même bossé sur la série Dragon Ball Z Kai, qui en fait reprend toute la saga Dragon Ball Z, mais il coupe tous les trucs qui servent à rien. Du coup, il y a deux épisodes. Non, je suis méchant. C'est vrai qu'ils ont quand même tendance à avoir plein de trucs qui servent à rien. Entre deux coups, ils se parlent pendant 3 ans, enfin bref. Et donc, ils ont épuré le maximum, ils ont refait tout ça en HD. Sauf qu'à un moment, il a été viré, Kenji. Il a été viré parce qu'en fait, les gens se sont rendus compte qu'il pompait plein de thèmes hollywoodiens. Donc ils lui ont dit, écoute mec, t'es un peu sympa, mais on va te remplacer par quelqu'un d'autre. Quoi. Donc, alors la BO du jeu est pas fabuleuse, c'est dommage que ça reprend pas. C'est un peu un problème d'ailleurs de tous les jeux Dragon Ball, je trouve, c'est que ça reprend pas les thèmes de la saga qui défoncent quand même super bien. Mais je trouve que celui-ci passe plutôt bien. Il y a le côté héroïque de Trunks que j'aime bien, c'est un personnage qui est quand même assez cool. Le fils de Vegeta, hein, quand même, un des persos les plus classes de la Terre. Et donc ça m'a fait plaisir de pouvoir le passer dans cette émission. Je garde la parole avec un jeu qui reste dans mon cœur comme une de mes meilleures expériences jeux vidéo.
On vient tout simplement d'écouter un de mes thèmes favoris de jeux vidéo, et je sais que ça fait plaisir à Rune.
Absolument.
Donc c'était le LBAZ thème de Little Big Adventure de Philippe Vachet. Alors ce jeu c'est assez paradoxal parce qu'il y a des jeux qu'on aime mais qu'on refait plusieurs fois. Et Little Big Adventure fait partie des jeux que je n'ai fait qu'une seule fois. Et là où on sait que, un peu comme un film que tu revois une fois, là où tu sais que le jeu t'a marqué, c'est que tu t'en rappelles de plein de moments super importants. Et c'est un jeu dont je garde énormément de très bons souvenirs. Alors moi j'adore l'univers. L'univers est extrêmement travaillé. Il y a un côté science-fiction. Moi ce que j'aime bien, un côté un peu naïf qu'on a tendance un petit peu à oublier. Moi j'aime bien la naïveté. J'aime bien les personnages où j'aime bien quand il y a un peu d'espoir, quand il y a un vrai très méchant, un très gentil. Moi c'est des choses que j'aime bien. Et c'est un jeu qui a été fait par Frédéric Reynal à l'époque de Adeline Software. Et donc il est sorti en 1994 et moi j'ai joué sur PlayStation, il est sorti plus tard en 1997 et c'est un jeu qui est hyper marquant parce que donc déjà la musique est juste magnifique. Moi le thème je m'en lasse pas, je peux l'écouter une fois par jour s'il faut. Moi ça fait partie des dans toutes mes playlists quasiment, il apparaît. Moi c'est vraiment une musique que j'adore, qui me transporte. Il y a un côté voyage, il y a une véritable identité. Moi quand j'entends les premières notes directement je reconnais, et même le thème du 2 est sympa, mais j'ai une grosse tendresse pour le thème du tout premier jeu.
Qui évoque tout de suite quand on a joué au jeu, il suffit qu'on entende 2-3 notes et ça évoque l'ambiance du jeu.
C'est ça, et l'ambiance qui est vraiment posée. Il y a un rythme qui est quand même assez posé. C'est un mélange, c'est un jeu en 3D isométrique. Et donc on joue Twinson qui va essayer d'aller sauver sa femme parce qu'elle a été embarquée, parce qu'il est déclaré comme étant un anarchiste, mais un rebelle, un truc comme ça. Donc c'est vraiment une histoire qui est de base assez basique, mais qui nous emporte vraiment dans un gros voyage sur une planète où il y a trois races différentes. Donc il y a vraiment un travail sur le background, sur l'histoire, sur l'univers, sur le méchant, sur les personnages. Et les cinématiques étaient vraiment très chouettes pour l'époque. Et moi, rien que d'en parler, je sais pas si on s'entend dans ma voix que je suis un peu ému comme ça. Il y a quelque chose qui se passe quand on parle de ça. Mais Little Big Adventure, moi, c'est un jeu qui m'a vraiment énormément marqué. Je l'avais fait avec un pote, on jouait à deux comme ça, on a vraiment fait l'aventure tous les deux. Et voilà, moi, j'avais vraiment envie de parler. C'était l'occasion de parler de Little Big Adventure. Non seulement c'est un très bon jeu, en plus la musique est magnifique. Enfin, c'est vraiment ce qu'on peut appeler un véritable coup de cœur.
Absolument.
Allez, je vais redonner la parole à Ron. Et oh bizarre, on va sur une console Sega.
On vient de s'écouter le thème des batailles du jeu de Grandia 2, sorti en 2000 sur Dreamcast. Alors, Grandia 2, un jeu de rôle japonais, très honnêtement, c'est pas le meilleur jeu de rôle du monde. Voilà, ça y est, c'est dit. Le premier opus ne m'avait pas vraiment plus emballé que ça, mais seulement voilà, au moment où il est sorti, tous les JRPG ben, se ressemblaient énormément. J'ai envie de dire, ça n'a pas beaucoup
changé. Oui, j'osais pas le dire, mais ouais, ça... c'est toi qui te prendras les remarques.
Voilà. Voilà, je me prendrai les remarques, mais je laisse. En étant un ex-gros joueur de jeux de rôle japonais, j'assume assez cette déclaration. Et quand Grandia 2 a débarqué, il avait un truc qui était super, un système de combat ultra dynamique qui tranchait avec ce qu'on avait l'habitude de voir et qui finalement emportait énormément dans le jeu, donnait un petit peu de tension dans ces combats, ben, d'énergie tout simplement. Et ça a suffi à faire que j'ai adoré ce jeu, qui à côté de ça a été assez classique finalement, donc pas mauvais, pas bon, mais j'allais dire dans la moyenne des jeux de rôle japonais, donc avec c'est à peu près toujours la même histoire. Il y a bon, je sens que je vais m'attirer vraiment des foudres des amateurs de jeux de rôle japonais, mais
prendre des gros risques. Hein,
mais il y a énormément, c'est très codifié comme style de jeu, tous les codes sont là dans Grandia 2.
Dire quoi, il y a un héros et un héros qui est l'élu qui va sauver la Terre peut-être.
Voilà, hein, comme ça. Ouais, tous les héros ils ont 14 ans. Enfin, bon, il y a un certain nombre de choses que tout le monde sait hein, sur les jeux de rôle japonais. Donc c'est celui-là rentre bien dans le moule, mais fonctionne, se révèle être un jeu dynamique, voilà, c'est le meilleur terme que je trouverais. Et finalement, c'est un jeu que j'ai parcouru très vite, qui m'a énormément accroché à un moment où je commençais à être lassé des JRPG. Donc j'en ai gardé pour le coup un très bon souvenir de ce titre. Et cette énergie, c'est la raison pour laquelle j'ai sélectionné ce morceau en particulier, parce que déjà, c'est toujours pareil dans ce genre de jeu, les musiques des combats, bah, on les entend un bon paquet de fois. Donc faut mieux qu'elle soit plutôt bien. À mon sens, c'est le cas ici. Ça a été composé par Noriyuki Iwadare, qui a bossé sur plein de jeux hein, depuis, et qui est surtout rattaché à Grandia, parce que là, c'est un peu sa pièce maîtresse. Hein, c'est très propre, ça fonctionne très très bien, et même à écouter juste en tant que OST, quand on n'a jamais joué au jeu, ben ça le fait plutôt pas mal. Bon, je vais rester un petit peu chez Sega, mais après tout, c'est aussi parce que c'est là qu'il y a les meilleurs jeux, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, pour cette fois-ci, parler d'un titre vraiment mythique pour ceux qui y ont joué. Dragon Force, sorti en 1996 sur Saturn, donc forcément jeu confidentiel en France. Mais pourtant, Dragon Force, grand jeu de la machine. C'est un jeu que j'étais très fier d'avoir et que j'ai dû revendre à une époque où j'avais besoin un petit peu de sous.
Ah, c'est moche.
Voilà, et que j'avais revendu quand même un truc comme 110€, je crois, et c'était il y a déjà quelques années.
Ah, là, t'aurais pu acheter une maison avec.
Eh oui, parce qu'il avait été assez peu édité, Dragon Force, et il était en très bon état, donc voilà, j'avais très bien vendu. Bon, là, je vous raconte ma vie, hein, c'est très intéressant. Alors, Dragon Force, c'est un de mes jeux préférés ever, donc ça a été un peu un crève-cœur de m'en séparer quand même. qui est une sorte de mélange entre un jeu de stratégie et un jeu de rôle qui demande aux joueurs de choisir un royaume sur une grande île, puis de constituer des armées pour finalement prendre possession de toute la map. Alors il y a un scénario par personnage, ils sont tous très typés, c'est entrecoupé de phases de dialogue, on est parfois trahi par ses alliés, il y a parfois des gens qui veulent nous rejoindre, on sait pas trop qui c'est. Enfin, à la fois c'est un peu entouré de scénarios, mais le fond du fond c'est quand même de construire l'armée la plus puissante possible pour pouvoir attaquer les châteaux des adversaires, et c'est là où on entend la musique que j'ai sélectionnée. Et il fait partie de ces jeux qui ont un pouvoir hypnotique quand on commence à y jouer. Alors je suis sûr que vous en avez tous des jeux comme ça, hein, où quand on démarre, on sent assez vite que le jeu, on va le refaire. Mais je sais pas combien de fois, jusqu'à ce qu'on ait exploré toutes les possibilités.
Ouais, Fantavision par exemple.
Ouais, bah, c'est comme Fantavision qu'on refait, on a exploré toutes ces possibilités en au moins 15 minutes, quoi. C'est... Ouais. On en parle assez souvent, va falloir qu'on passe un morceau de Fantavision un jour.
Il n'y en a pas ? Attends, je te le fais. C'était le mode troll gratuit, pardon.
Qu'est-ce que c'était drôle, Fantavision. Bon, bref. Alors, au niveau du son, dans Dragon Force, on doit la bande-son à Tatsuyuki Maeda, qui est un des poulains de chez Sega, mais qui a finalement peu composé. Hein. Il était surtout arrangeur ou sur les effets sonores des jeux. Et il faut bien reconnaître que la bande-son, elle est relativement plate. Elle est ni bonne ni mauvaise, mais ce qui était très probablement intentionnel, parce que finalement, dans un jeu de ce style, on a des thèmes qui sont rattachés à des scènes ou à des personnages, donc qu'on entend énormément, et vous le savez tous, un morceau qui est très marqué quand vous l'entendez 150 fois, vous en pouvez plus, quoi. Donc il faut des musiques qui sont un petit peu plus discrète, mais ça n'empêche pas que j'ai quand même une amitié particulière pour le morceau que je viens de passer, parce que celle-là, je l'aime bien tout court. Alors je me dis, si je l'aime bien tout court, peut-être qu'il y a d'autres gens qui l'aimeraient. Si moi je l'aime, si toi tu l'aimes, alors tout le monde peut l'aimer.
Oh, ça c'est beau.
Allez, on va quitter Sega, parce qu'il paraît qu'il y a une vie en dehors de Sega, et Creepers va nous entraîner dans les cercles de l'horreur.
On est en 2010 et Electronic Arts a tenté une remise en question de sa ligne éditoriale. À un moment, ils ont compris qu'on en avait marre d'enchaîner les Need for Speed, les FIFA et tous ces trucs comme ça, et se sont dit pourquoi pas tenter des nouveautés. Oh. Et là débarque un petit peu au fur et à mesure Mirror's Edge ainsi que Dead Space. Alors le succès n'est pas forcément au rendez-vous, et il y a donc aussi Dante's Inferno. Alors Dante's Inferno, on a déjà passé un morceau, puisque parfois Ron a bon goût, il dit...
plus des musiques de bons jeux. Et c'est pas uniquement chez Sega, parce qu'on rappelle que Sega n'était déjà mort, il ne faisait plus de consoles. Désolé, de remuer le couteau dans la plaie. Mais c'était une époque où voilà, Electronic Arts faisait tenter des petites choses sympas. Et même si Dante's Inferno a longtemps été uniquement comparé à God of War, et ben je trouve que c'est un jeu qui a une grosse personnalité. Et c'est pas forcément le cas de beaucoup de jeux qui ne se limitent qu'à copier un petit peu par-ci par-là. D'ailleurs, c'était vraiment une caractéristique des trois jeux qu'a tenté Electronic Arts entre Dead Space, Dante Inferno et Mirror's Edge. C'était vraiment des jeux qui ont tenté pas mal de choses plutôt intéressantes. Et bizarrement, bah, Dante Inferno, c'est le seul qui n'a pas eu de suite. Parce que Mirror's Edge, on a tous pleuré pour avoir une suite et nul. J'ai pas aimé du tout le Mirror's Edge 2. Dead Space, alors le 2 était sympa, le 3 a commencé à être un petit peu plus bourrin. Et Dante Inferno, moi j'ai adoré l'ambiance, vraiment, alors c'est craspec, hein. C'est vraiment une ambiance qui est très craspec, et notamment il y a des séquences dans la luxure où on a un boss qui a des seins énormes avec des tétons qui s'ouvrent, il y a des araignées qui sortent, il y a des verges qui sont un peu par-ci par-là dans les décors, enfin voilà, c'est quand même hyper osé, mine de rien. Et en plus, vraiment, l'ambiance est poisseuse, et elle est appuyée justement par la bande originale de Gary Shiman, alors qui est un compositeur qui, lui, fait tout. Lui, il est pas comme ça, lui, il fait de la télévision, il fait du cinéma, et il fait du jeu vidéo. Et dans le jeu vidéo, entre autres, il a bossé quand même sur Bioshock, Destroy All Human, où on pouvait mettre des sondes anales aux gens, ce qui est quand même assez sympathique.
Quand même, ouais.
Et aussi sur Resistance. Donc, et le boulot, je trouve, sur Dante Inferno, colle parfaitement à l'ambiance du jeu. Et donc, pour remettre un petit peu dans le contexte, donc on incarne Dante, donc forcément c'est basé sur la divine comédie de Dante, et donc c'est pas forcément un truc qui est super fun, et je trouve que ça respecte bien ce truc là, on est vraiment dans l'ambiance, on traverse les 7 ou 8, je ne sais plus, cercles de l'enfer, et chaque niveau a vraiment une identité propre, et ça fonctionne très très bien. Le gameplay, moi je l'ai trouvé hyper plaisant, il y avait pas 20 milliards d'armes, mais il y avait plein de combos différents à débloquer, donc moi Dante Inferno c'est un jeu que j'aime beaucoup. On reste donc dans l'horreur, et cette fois on va parler d'un jeu qui fait débat, mais comme c'est un coup de cœur, je m'en fous. Thank you. Oui, je vous entends déjà. Evil Within, c'est pas terrible, Evil Within par-ci, Evil Within par-là, Ron il aime pas, Bilou il aime pas, et ben bref, on s'en fout. Ami mélomane, nous venons d'écouter Clair de Lune, composé par Claude Debussy, artiste né en 1862 et qui apparaîtra sur les billets de 20 francs, ce qui ne parlera pas à tout le monde, mais c'est vrai, il était sur les billets de 20 francs. Alors j'ai découvert effectivement que Claude Debussy, bah, sa musique a été utilisée dans Evil Within, qui est une musique qu'on entend régulièrement dans le jeu, puisque c'est dans les endroits où on va rejoindre notre point de sauvegarde pour rejoindre l'asile en fait, ou l'hôpital où on peut aller se reposer, aller, comment dire, débloquer des systèmes pour son personnage, le faire évoluer, etc. Donc c'est une musique qui est très apaisante et qui, je trouve, colle bien justement au lieu où on se retrouve. Donc on arrive, on entend ça, on cherche la pièce et on passe d'un univers à l'autre. Et c'est ça que j'adore dans Evil Within, c'est son travail de mise en scène. Et même s'il y a un côté un petit peu foutraque, parce qu'on sent un peu le maxi best-of de l'horreur réalisé par Shinji Mikami, je trouve qu'il y a une vraie folie dans la mise en scène, il y a une vraie recherche dans la mise en scène de ce jeu-là, et on passe d'un niveau à l'autre d'un seul coup, on est en train de courir dans un couloir, on est happé par le sol pour arriver dans un champ de tournesol absolument magnifique et reposant, avant de retrouver un nouveau cauchemar avec une scène avec des personnages brûlés vifs, etc. C'est vraiment une plongée directe dans le survival horror, et bon, Shinji Mikami a déjà fait ses preuves, et moi ce jeu, alors bizarrement je l'avais commencé à l'époque de la sortie, je l'ai laissé de côté parce qu'il y avait plein de sorties, puis avec le boulot j'avais pas le temps, et récemment je me suis dit tiens, je vais quand même le terminer. Malheureusement ma sauvegarde était foutue, donc j'ai recommencé tout le jeu et je l'ai enchaîné, j'ai joué qu'à ça pendant une semaine, et vraiment bah, j'ai été porté par le jeu malgré ses défauts, il en a clairement, mais j'étais vraiment pris par la mise en scène, par l'univers, par les cinématiques, et moi je trouve vraiment Evil Within très très chouette, il coûte que 10 balles. Même moins, 5 balles, et le mec il arrive à râler quoi. 5 balles.
Non, j'arrive à râler, j'ai rien dit, je t'ai laissé dire tout ce que tu voulais.
Mais t'as râlé avant,
dis donc. J'ai dit que j'avais des réserves, mais que je voyais quand même des choses intéressantes. Mais moi j'en suis au chapitre 5, alors je porte pas un jugement définitif non plus. Bon, voilà, mais effectivement, il y a des lacunes, faut pas se leurrer. Mais je t'enlève pas non plus que ce que j'ai confié également, qu'il y a des choses pas inintéressantes dans ce que j'ai fait jusqu'à présent.
Ouais, c'est un jeu moi que je trouve très généreux, et si en plus on est fan de films d'horreur, bah il y a plein de petites touches par-ci par-là qu'on peut retrouver vraiment dans le côté cinéphile de Mikami se retrouve dans Evil Within. Donc moi je vous le conseille, et cette musique elle est vraiment bien.
Ça c'est vrai.
Allez, on continue dans l'horreur parce que les coups de cœur des fois c'est un petit peu sombre quand même, et on va sur Xbox 360.
Alors celui-là, c'est un des coups de cœur les plus difficiles à avoir parce que c'est un coup de cœur attendu. Et ceux-là, c'est les pires parce que ce sont les jeux dont on risque d'être déçu. Avant même d'y jouer, on a envie de les aimer, ce qui est toujours un excellent moyen d'avoir un résultat qui n'est pas à la hauteur de nos attentes. Et pour Alan Wake, mon envie, elle était très, très forte. Le jeu ressemble à un croisement entre Twin Peaks et Stephen King, donc c'est exactement ma came, c'était fait pour moi. Je ne pouvais qu'aimer, donc qu'être déçu. Donc c'est un peu inquiet que j'ai lancé le jeu et j'ai plongé dans le jeu comme le personnage principal dans le lac au début du jeu. L'ambiance, elle est incroyable, la réalisation est sublime, sans doute un des plus beaux jeux de la génération précédente. Alors, tout n'est pas parfait dans ce titre. Je ne suis notamment pas trop fan du côté action qui est un peu trop prononcé dans ce jeu, mais c'est tellement négligeable à côté de l'ambiance folle qui s'en dégage que voilà, ça fait Alan Wake fait partie de ces jeux qui, au fur et à mesure du temps, a continué de gagner des fans. Ce qui n'est pas un phénomène courant pour beaucoup de jeux. Ce qui veut probablement dire quelque chose. Hein. Alors, ceux qui ne connaissent pas le sujet, hein, Alan Wake, c'est un écrivain. Il va dans une petite ville il va à Twin Peaks. Hein. Voilà, ça ressemble. c'est dans le Maine. Il sombre dans un univers où il doit lutter contre l'obscurité, on va dire, et tout ce qui vit dans l'obscurité. Alors, tout ça est très allégorique. Que ça a aussi du sens, c'est bien écrit, c'est bien rythmé. C'est un jeu que tous les amateurs de cinéma fantastique doivent avoir fait, n'est-ce pas?
Mais je ne sais pas pourquoi je ne joue pas à ce jeu. C'est une énigme. Je ne sais pas pourquoi j'y ai joué. Je n'y ai pas joué quand il est sorti. Je ne sais pas pourquoi je n'y ai pas joué une fois que tout le monde était d'accord pour dire que c'était bien. Et je ne sais pas pourquoi je n'y joue pas maintenant. Je ne comprends pas.
Oui, tu t'as fait The Evil Within. Et excuse-moi, mais... il faut que tu joues à Alan Wake. Ça me semble pas possible que tu le fasses pas. Je suis à peu près sûr que t'adoreras.
Bah, je vais le faire, c'est promis.
Alors, au niveau de l'OST, on n'est pas loin du perfect hein, avec Alan Wake. Il y a pas mal de chansons. Alors, comme moi, je respecte la règle de ne pas passer des chansons.
Oh, le roublard.
Je n'en ai pas prise, mais elles sont vraiment choisies avec soin et fonctionnent très très bien dans le jeu. Et elles sont entourées des compositions de Petri Alenko, donc morceau là que j'ai passé qui s'appelle Tom the Diver, dont le nom est ben avant tout rattaché à Alan Wake, hein, il faut bien le dire. Et ce qu'on vient d'entendre, c'est je dirais l'illustration du sans faute que j'essaye de décrire. Il y a une sonorité qui fait penser un peu à du Twin Peaks, hein, c'est clair. Et c'est un son qui retranscrit à la fois la tristesse, la mélancolie et l'angoisse du personnage. Je trouve que ça colle vraiment bien avec ce qui est décrit dans le jeu. Bref, si vous n'avez pas encore joué à Alan Wake, et ben c'est possible de le faire. En plus, il est rétro-compatible sur Xbox One. Il doit vraiment se trouver à que dalle. Hein. C'est pas un gros investissement. Et il était tellement beau à sa sortie que je crois que même aujourd'hui, bah, il est toujours beau, en fait. Hein.
Comme moi.
Comme Creepers, il est beau comme Creepers. Allez, on va passer à ma sélection cinéma qui va parler du miel et des abeilles.
Je raconte que...
Thank you.
je suis allé voir Candyman en m'attendant à un film de... Je m'attendais à un film de Boogeyman, quoi. Et ça m'allait très bien. De voir une déclinaison d'un Freddy, c'était absolument parfait. Mais quelle surprise de tomber sur un film qui était finalement bien plus profond. Et tout en n'oubliant pas, en chemin, d'être un vrai film d'horreur. Le sujet de Candyman, c'est la légende urbaine. Les mythes urbains qu'on trouve cette fois dans une cité décrépite de Los Angeles, à Cabrini Hill, si je ne me trompe pas. Et c'est un homme noir qui avait été exécuté parce qu'il était amoureux d'une femme blanche il y a bien longtemps. Et depuis, quand on répète trois fois son nom en se regardant dans une glace, il apparaît. Et il n'est pas très sympathique avec son crochet qui remplace sa main droite et avec toutes les abeilles qui trouvent refuge sous son manteau parce qu'il avait été exécuté en étant enduit de miel, enfin bon, un truc vraiment pas cool. En un film, on a un personnage qui est devenu emblématique, on a un acteur qui a trouvé le rôle de sa vie, Tony Todd. En fait, il a fait Candyman et ça lui a suffi pour devenir un personnage majeur, un méchant majeur des films d'horreur.
Et puis de vivre que de caméos, du coup, trucs comme ça.
Exactement, il a même plus besoin de jouer. On a un film qui est très très bien réalisé par Bernard Rose. Les acteurs sont juste...
Ouais, Virginia Madsen est très bien. Pareil, elle a pas eu une grande carrière, mais elle est formidable dans Candyman.
Dans ce film, elle est super. J'adore aussi l'acteur qui fait son mari, qui est à la fois, je sais pas, un connard tout en étant un peu touchant. Enfin, je trouve que tout le monde est très juste dans ce film, que ça marche vraiment vraiment bien. Et puis, il y a cette musique que personnellement je trouve réellement envoûtante. Quand le film démarre, dès le générique, en fait, on est happé. Et dès qu'on entend cette musique retentir, cette espèce de petite ritournelle, ça colle tellement bien avec le concept de légende urbaine, comme une histoire qu'on se raconte le soir pour se faire peur. Elle est l'œuvre de Philip Glass, hein, qui est un auteur donc très prolifique, hein, qui fait beaucoup de classiques finalement, qui donne des concertos très réguliers à tour de bras. Tout en travaillant beaucoup avec le cinéma, enfin si vous êtes curieux et que vous allez voir ce qu'il fait, il est ultra prolifique, il fait énormément de choses, et ce thème qu'il a composé est donc utilisé par Bernard Rose dans Candyman, fonctionne tellement bien que finalement ça fait partie de ces petits airs où il suffit de trois notes, quatre pour être exact, ça fait pour qu'on soit tout de suite projeté dans l'imagerie du film et qu'on ait toute la musique en tête. Voilà, moi ce film, ça a été un vrai coup de cœur. Candyman, c'est pas juste un film d'horreur, même si on dit, j'aime pas dire ça parce que c'est un peu méprisant pour les films d'horreur, c'est aussi un film d'horreur, mais pas que. Et si vous l'avez pas vu, bah écoutez, je vous suggère d'aller poser un œil dessus, je vous garantis que ça vous plaira. Alors pour le prochain jeu, on va rester encore un petit peu dans le domaine de l'horreur, mais cette fois-ci ça va être un petit peu plus bourrin avec des barbares bestiaux.
Chess, Valiant Dog.
Alors effectivement, nos coups de cœur sont pas super joyeux, on commence à s'en rendre compte au fur et à mesure de l'émission, on parle d'hôpital, comme, de cancer.
Comme nous, on est joyeux, ça va.
Voilà, comme, entre la bonne humeur et nos musiques tristes, c'est un mariage plutôt sympathique. Alors 2017, c'est une année particulièrement riche dans le jeu vidéo, mine de rien. Il y a pas mal de choses qui sortent, des choses très très variées, et on a aussi des belles surprises, et notamment Hellblade, Shenmue's Sacrifice, du studio Ninja Theory. Alors, on avait découvert Hellblade, je crois, à une époque de l'E3, où le jeu avait été carrément montré comme vraiment un jeu indépendant, parce que le jeu est développé et édité par Ninja Theory. Ils voulaient absolument prouver que le AAA, c'était pas uniquement une affaire de gros éditeurs. Et c'est un pari plutôt réussi, parce que Shenmue's Sacrifice, c'est un jeu qui coûte 30€, qui est absolument sublime, techniquement hyper solide, avec une direction artistique, mais alors du feu de Dieu. Les photos que vous verrez vraiment sur Google Images, etc., ou les photos que vous voyez dans les magazines, le jeu est vraiment comme ça, quand il tourne. C'est assez bluffant de voir d'ailleurs l'actrice comme ça, le personnage virtuel prendre vie devant vous. Il y a de la vie dans ses yeux, c'est absolument fou. Et en plus de ça, comme d'habitude chez Ninja Theory, il y a un vrai travail d'écriture, ce qui fait que on est vraiment plongé avec ce personnage-là dans sa folie, puisque en fait, on vit la descente aux enfers, mais vraiment, c'est-à-dire que Shenmue part dans l'enfer viking pour essayer de récupérer l'âme de son compagnon Dillion qui a été massacré par les vikings. Et en même temps, ce personnage-là a été mis au banc de sa tribu, vraiment mise de côté, parce qu'elle entend des voix dans sa tête. Et c'est vraiment, si on joue au casque, et il faut vraiment jouer au casque à ce jeu-là, on a vraiment plein de voix qui viennent de gauche à droite, qui vraiment lui disent à peu près ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, qui la jugent complètement. Et on est un peu comme un témoin de sa descente aux enfers. Et c'est matérialisé par des changements complets sur les graphismes. Il peut y avoir une tempête d'un seul coup qui va se calmer, avec le soleil qui va apparaître. Et tout ce qu'elle va affronter au fur et à mesure de l'aventure, c'est un peu la matérialisation de ses peurs quand elle va plonger comme ça au fond de cet enfer-là. Et la musique qu'on vient d'écouter est... Je sais pas comment dire magnifique, pas vraiment, mais elle nous emporte vraiment, le côté que les personnages qui chantent comme ça, l'espèce de chant martial viking, ou même un espèce de côté un peu chant funéraire comme ça, où ça commence à s'emballer au fur et à mesure.
Ouais, c'est un vrai chant de groupe, quoi, qui nous entraîne.
Exactement, et ça correspond vraiment bien à l'ambiance du jeu, qui peut vraiment passer de tout à rien en un seul coup, passer d'un moment assez calme à l'horreur en quelques instants. Donc c'est vraiment un vrai coup de cœur, ce Hellblade chinoise de Sacrifice. Je vous encourage vraiment à essayer le jeu. Il est disponible sur PlayStation 4 et sur Steam, et c'est un jeu qui vraiment m'a épaté par sa direction artistique et par quand même cette volonté d'apporter quand même quelque chose de différent dans un jeu techniquement très très solide. Et mais dis donc, on reste dans la joie de vivre, et si on allait dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale?
Parfois, on croise un jeu avec lequel on rentre en résonance. Et quand j'ai commencé Soldat Inconnu, c'était avant tout pour le style graphique choisi, si je m'attendais. Le titre traite de la Première Guerre mondiale et se caractérise par une justesse totale dans le traitement. Sur un gameplay très simple, Soldat Inconnu choisit de parler de destin croisé avec en toile de fond la guerre, et c'est un choix payant, sans éluder à aucun moment toutes les horreurs que la guerre peut entraîner. Soldat Inconnu nous rappelle que dans un conflit, contrairement à ce qu'on nous raconte pendant les cours d'histoire, il n'y a pas de gagnants, mais seulement des victimes. Le jeu nous rappelle jusqu'à un final bouleversant que chaque mort a une histoire, une famille, des sentiments, qu'il y a des gens qui l'aiment, et ça, quel que soit le camp auquel il appartient. Dans une période où il y a des pays qui détiennent l'arme atomique, qui sont dirigés par des fous furieux, ou dans une période où plus que jamais les rapports entre les nations se limitent à des rapports de force, dans une période où n'importe quel prétexte, n'importe quelle divergence, n'importe quelle différence de religion devient une raison pour tuer, voilà un message dont on devrait se souvenir peut-être un peu plus souvent. Parfois, les jeux vidéo, ça peut servir aussi à quelque chose. Et la musique composée par Daniel Tepper traduit remarquablement ce qu'elle illustre, c'est-à-dire la vie. C'est dur, c'est dramatique. Mais aussi, il y a toujours quelques élans qui nous rappellent que même dans les pires situations, la vie essaie toujours de se frayer un chemin.
Puis les élans, moi à part, au Québec, je n'en ai jamais vu.
Bon, après toutes ces émotions et après toutes ces horreurs, et si on finissait sur un truc bien fun ?
Allez, un peu de bonne humeur quand même pour clôturer ce premier épisode de la première saison de la Beatsbox.
Mais ouais.
Parce qu'on parle comme ça d'hôpitaux, on parle de Première Guerre mondiale, on parle de l'enfer. Attends, c'est quoi ces coups de cœur dégueulasses? Alors moi, je vous propose comme ça, avec Unjammer l'ami, en écoutant Fire Fire, et ben de sortir la gratte tranquillement, de jouer de la guitare pour cette cousine, cette sœur de Parapaz au rappeur, on va dire, ce jeu qui reprend vraiment les mécaniques de gameplay avec de la bonne grosse gratte, avec plein de styles de gratte différentes, et c'est un jeu, moi, que j'ai adoré, qui est vraiment beaucoup moins connu que Parapaz au rappeur. Rhône me confiait qu'effectivement, lui ne connaissait pas
Jammer
l'ami. Ouais. Et c'est un jeu, bah, moi, forcément, j'avais adoré, parce qu'à l'époque, j'étais très jeu de rythme, hein, je l'ai pas mal dit, je crois, dans cette émission-là. Et donc, Jammer l'ami, quand j'ai vu qu'il sortait, quand j'ai vu que c'était le même studio que Parapaz the Rapper, je suis allé banco, c'est parti, et j'ai vraiment adoré. Donc, y a pas vraiment de grosses surprises par rapport à Parapa, vraiment, le système de jeu est quasiment identique à quelques petits détails près.
En plus, on peut même débloquer Parappa quand on joue au jeu, et après on peut même refaire le jeu avec Parappa et avoir des musiques un petit peu différentes, donc c'était plutôt cool. On peut jouer à deux, moi je jouais beaucoup à deux aussi à l'époque à ce jeu là donc c'est un jeu qui est bourré de bonne humeur, qui est ultra fun, et avec forcément une musique qui défonce, hein, il valait mieux sur ce type de jeu. Donc
c'est clair,
on trouvait que c'était vraiment le morceau pour vous donner la pêche, pour vous dire que la vie c'est quand même pas si mal, que les hommes ils peuvent aussi se faire des bisous, aller à des concerts et s'éclater ensemble, et que c'est pas uniquement des fous qui sont prêts à appuyer sur un bouton pour détruire le monde. Et oui, on vous aime et on vous fait aussi des gros bisous, c'est ça la Beatsbox.
Oui, c'est vrai, dans notre sélection, on a eu un petit peu de gravité, de solennité, une fois de temps en temps, mais on a aussi du fun, mais en fait, on a un peu de tout, parce que c'est ça qui est beau avec les coups de cœur, c'est que ça part un peu dans tous les sens, dans tous les spectres des sentiments qu'on peut ressentir une manette en main devant son écran. Alors, on arrive à la fin, l'air de rien, ça y est, ce premier épisode est bouclé. Écoutez, j'espère que ça vous a fait plaisir de nous retrouver, parce que, en tout cas, nous, ça nous fait plaisir de vous retrouver.
Mais on est carrément content, effectivement. En plus, comme tu l'as dit, ce qui était bien avec les coups de cœur, ça permet de relancer la saison tranquillement, comme ça, avec plein de jeux qu'on a adoré. Voilà. Alors, on a essayé vraiment de faire une sélection sans les titres vraiment hyper attendus, où on allait partir sur du Mario, ou vraiment du Shenmue, des choses comme ça. On a essayé de gratter un petit peu pour vous proposer des jeux qui vraiment nous ont plu à nous. Alors, n'hésitez pas à nous-mêmes partager les morceaux qui, pour vous, sont intéressants sur des jeux que peut-être d'autres personnes ne connaissent pas du tout, des vrais coups de cœur, hein, c'est ça qu'on apprécie. Mmh. Et puis, on n'a plus qu'à se donner rendez-vous pour une prochaine émission avec peut-être quelques belles surprises.
D'autant plus que cette année, on a déjà quelques petits sujets qu'on tient absolument à faire. Notamment, on va vous préparer un joli petit versus, parce qu'on sait que vous aimez bien quand Creepers et moi-même, on se met un petit peu sur la gueule, si possible. Et on va même également traiter dans un épisode spécial une des sagas qui est très très chère à notre cœur, que ce soit pour Creepers ou pour moi.
Allez, à bientôt les amis.